plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
L'artiste, le peuple et le marbre, aujourd'hui dans Plan Large avec Andrei Konchalovsky et Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Andrei Konchalovsky, nous en avions parlé déjà dans cette émission, c'était en avril de l'an dernier avec Eugénie Zvonkin et Michel Simon qui sortait alors son livre d'entretien avec le grand cinéaste russe Andrei Konchalovsky, ni dissident, ni partisan, ni courtisan. Nous avions tenté de cerner la figure singulière et irréductible du frère aîné d'un autre cinéaste célèbre, Nikita Mikhalkov, tour à tour célébré et interdit par le pouvoir soviétique, notamment pour avoir à ses débuts filmé sans phare et dans toute sa crudité un kolkhoz à rebours du réalisme socialiste dans Le Bonheur d'Asia. Un cinéaste déroutant que Konchalovsky, capable de représenter l'URSS au Festival de Cannes avec une fresque à la gloire de l'industrie du pétrole, Sibériade, pour mieux filer au même moment à Hollywood, voir si l'herbe y était plus verte et la liberté de créer plus grande, malgré quelques chefs-d'œuvre tournés en Amérique, comme Maria's Lovers ou le génial Runaway Train et quelques navets aussi, il faut bien le dire, comme Tango et Cash, dont il fut en fait chassé du tournage par sa star Sylvester Stallone, ayant compris que la dictature de l'argent valait bien celle d'un comité central et que la rigidité du système hollywoodien l'empêchait d'improviser comme il aimait à le faire. Konchalovsky est retourné en Russie à la chute du parti communiste et réinvente depuis en permanence son cinéma avec l'appui de mécènes, oligarques et nouveaux riches à qui il soutire de quoi financer ses rêves monumentaux sans autre promesse de retour sur investissement qu'un supplément d'âme dans un pays qu'il compare volontiers à Florence au temps de la Renaissance. C'est dire si son nouveau film, l'impressionnant Michel-Ange, moins biopic que portrait de l'artiste en misanthrope vitupérant et génial, à Proguin est capable d'extraire une beauté divine et sensuelle d'un bloc de pierre aux allures de monstre, résonne plus que jamais comme l'autoportrait furieux à 83 ans d'un cinéaste inclassable qui nous accorde aujourd'hui un entretien exclusif. En fin d'émission, Charlotte Garçon nous parlera d'un autre immense cinéaste, Frédéric Wiseman, dont le nouveau chapitre de l'ample et passionnante comédie humaine qu'il construit depuis plus de 50 ans, City Hall, est également sorti en salle mercredi. Mais pour l'heure, visite non autorisée par l'artiste dans une célèbre chapelle romaine au plafond fraîchement repeint.
Mi serve ancora un altro anno. C'è da rifare tutto.
Non ho finito, non vi faccio passare.
Michelangelo, è un anno che continua a ripetere la stessa cosa. Sua Santità ti aveva avvertito, prima a Natale, poi a Pasqua. Ora il Papa ha perso la pazienza. A mezzogiorno verrà qui con un intero conclave per vedere la cappella e la commissione. Deve vedere il tuo lavoro prima dell'arrivo del pontefice. Facci passare.
No. Michelangelo, la Santa Inquisizione è responsabile nei confronti del Papa del contenuto religioso degli affreschi. Non ci siamo scordati i guai con l'affresco del Paradiso, dove Eva punta con il naso i coglioni di Adamo. Ancora adesso non posso alzare lo sguardo al soffitto. Facci strada.
Ma non è male. Eppure al Papa era piaciuta. Allora vuol dire che lui di me si fida e l'Inquisizione no.
Bonjour Andrei Konchalovsky et merci de nous accorder cet entretien à distance depuis Moscou. Votre film Michel-Ange sort enfin sur les écrans français 2 ans après sa réalisation. C'est un projet, je crois, qui vous a accompagné pendant longtemps, 8 ans. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à la figure de Michel-Ange, Andrei Konchalovsky?
Vous savez, pour moi, c'est comme la mélodie qui vient à la tête du compositeur. Il n'y a aucune raison. Bien sûr, je peux expliquer un peu de choses, mais quand même, la chose importante, c'est l'impulse qui vient comme mélodie. Et après, cette mélodie commence comment je vous chassais. Mais quand je pensais de Michel-Ange, pourquoi je ne peux pas faire un film sur Michel-Ange, je ne sais pas, aucune explication. Je commence à lire un peu des livres et j'ai lu la poésie de Michel-Ange. Et quand j'ai lu la poésie de Michel-Ange, très beau d'ailleurs, j'ai lu un petit poème qui était la réponse à son ami Giovanni Strozzi. Et Giovanni Strozzi a écrit à Michel-Ange un court poésie parce qu'il a visité la tombe de Medici. Et Giovanni écrit que cette marbre n'est pas une pierre. Et on attend que cette marbre se réveille. Et j'ai lu que Michel-Ange a écrit des choses très étranges à son ami. Il a écrit, il ne faut pas parler, mon ami. Il faut se taire. Et c'est mieux d'être la pierre, de ne pas se réveiller pour ne pas voir la honte de l'époque. Je traduis un peu avec mon français très pauvre, mais ça veut dire, il m'a dit, il a écrit, c'est mieux être le pierre, ne me réveille pas. C'est génial. Et je commence à réfléchir de cette pensée extraordinaire que Michel-Ange préfère être le pierre, de ne pas se réveiller, pour ne pas voir le malheur et ne pas voir la honte. Et c'est vraiment été l'impulse. Pourquoi Michel-Ange se sentir honteux? Pourquoi le Michel-Ange souffert tellement? Et c'est vraiment, je peux dire que c'était vraiment l'impulse de commencer à étudier et rechercher la vie de Michel-Ange. Pas son art, mais sa vie. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses de sa vie parce qu'il y a les lettres à son père, les lettres à son frère, et les lettres sont très, très beaux. Grâce à Dieu, Michel-Ange n'avait pas SMS. Parce que s'il y avait seulement SMS, nous n'avons pu avoir cette richesse de détails qui sont extrêmement essentiels pour le film. Mais après, c'est passé à peu près 4 ans, 5 ans, quand j'ai lu beaucoup de choses, et très lentement, j'ai trouvé la piste. Vous savez, la piste, c'est une chose pour l'écrivain, parce que quand même j'ai écrit le scénario. La piste pour l'écrivain, c'est pas du tout raconter l'histoire directe. Et j'ai trouvé ça, avec mon âge, avec les années de recherche d'écriture, que vous savez, quand nous avons GPS à la voiture, on cherche le centre de quelle ville, de n'importe quelle ville, on nous mène, le GPS nous mène directement vers le centre. Et c'est pas comme il faut écrire le scénario. Le scénario, on doit chercher sans GPS, avec le cercle, 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 une spirale qui peut-être va venir vers le centre. Jamais achever le centre.
Mais on a le sentiment, effectivement, que ce film s'est presque écrit en se promenant dans les paysages que vous filmez. Vous commencez par cette route de campagne toscane avec un homme qui marche de dos. On ne sait pas encore que c'est Michel-Ange. Il le râle, il vitupère contre tout le monde, mais c'est ce paysage qui nous prend en premier.
Mais c'est vrai. Mais vous savez, c'est pourquoi même je prends le cadrage d'écran traditionnel. 4-3, parce que dans ce cadre, on peut voir le ciel. Et bien sûr, le paysage est important, si vous savez, le paysage d'Italie à cette époque, c'est quand même une chose qui signifiait tout, hein, tout l'art de Renaissance. Et bien sûr, Toscane, c'est vraiment une chose iconique, comme une icône. Mais c'est, pour moi, c'est pas seulement paysage, c'est quand même une figure, donc clochard. Vraiment, Michel-Ange était comme clochard. Il jamais changeait ses souliers. J'ai changé son vêtement seulement pour visiter Medici ou le pape ou quelqu'un important. Autrement, il était vraiment comme clochard. Ça me plaît beaucoup parce que, à vrai dire, ça me rappelle un peu des poètes de Beatnik, des années 60, de Bukowski, de Ginsburg. Pour moi, c'est très moderne être clochard et avoir l'argent pour s'habiller comme Leonardo est très à la mode, Leonardo da Vinci. Mais Michel-Ange, il avait une méprise pour le vêtement, si je peux vous dire. Ça me donne déjà un caractère.
Mais c'est vrai que quand on regarde votre film, on a le sentiment de sentir des odeurs. Il y a une matérialité, quelque chose de très organique dans votre manière de filmer.
C'est vrai, mais vous savez, pour moi, l'odeur, c'est un très bon terme pour l'art de théâtre et du cinéma. Parce que si vous sentez l'odeur, ça veut dire le directeur, l'artiste, le designer de costumes et set décorateur, ils ont la culture pour fixer l'odeur de période. Chaque période, sa propre parfum. Par exemple, moi je trouve que le film La Reine Margot, c'est un film extraordinaire parce qu'il a vraiment l'odeur de cette période. Quand je parle d'odeur, c'est pas seulement le parfum, c'est texture. Patrice Chéreau, un grand génie du cinéma, qu'on a fait à l'époque, c'est vraiment, vous sentez ce parfum de sueur, de sang, de sexe, de la mort. Et c'est très souvent maintenant, particulièrement en télévision, que l'on voit l'époque, mais il n'y a pas d'odeur. Par exemple, la bataille de Trône ou Borgia ou grand spectacle de télévision de Medici, aucune odeur. C'est un peu américaine, c'est plastique. Et par exemple, quand j'ai fait Odyssée, je devais imaginer le parfum de Grèce antique. Les Grecs antiques, ils se lavaient avec le sable et l'huile d'olive. Sable, huile d'olive, et après se jeter dans la mer, et c'est tout. Et c'est vraiment le parfum de corps, sable et l'olive. Et c'est très important pour moi de trouver le vrai parfum de l'époque. Et par exemple, le parfum de l'Europe de Renaissance, c'est vraiment très riche parce que c'est pu, et en même temps, c'est pu, et en même temps, c'est le parfum de jasmin. Et cette richesse de parfum, il faut essayer de faire sentir par les choses différentes, par les images et par le comportement. Dans ce sens, je pense, Visconti, il était extrêmement ponctuel pour faire sentir la texture de l'époque. Mais pour faire ça, il faut avoir assez d'informations. Je ne vais pas dire le mot culture. Assez d'informations pour recréer. Et aujourd'hui, c'est plus par... Je parle de, par exemple, metteurs en scène jeunes russes. Ils ont fait beaucoup de films sur l'évolution et il n'y a pas de parfum. Vous savez, parce que on a pris beaucoup de choses des films américains. Et le film américain n'a pas de parfum, parce que c'est un peu plastique. Et c'est pas être très beau, mais aucun sentiment sensuel.
C'est trop gros. Une risatura cuscina l'abbiamo mai fatta.
Piri, Fune, Barati, Elise, andavano bene.
Ci vorranno 50, 100 uomini per tirarlo giù.
Farò il calcolo e ordinerò tutto quello che serve. Mi assumo tutta la responsabilità.
È troppo grosso da portare giù.
Eppure credo che sia possibile.
Ma pesa più di 50 cari.
Ma 50, non so, ma 30 gli è tutti Stichin.
Stichin è un blocco, è un mostro.
Sì, è un mostro. Allora, che vi dite? Siete d'accordo?
D'accordo.
Ma pensa di essere l'unico pazzo che i 30. Di che? Per me, va bene.
Va bene.
Va bene, dai.
Va bene.
Viva il Moscow!
Ce qui est très fort, Andrei Kanchelovski, dans votre film, c'est qu'il n'y a pas seulement une reconstitution visuelle, une reconstitution du parfum, comme vous dites, mais il y a aussi une reconstitution, je dirais presque psychique ou spirituelle. Vous nous plongez vraiment dans le mode de pensée d'une époque, dans la façon dont on se représentait le monde à la Renaissance.
Oui, merci. C'est très joli ce que vous avez dit. Très joli parce que c'est exactement ce que je voulais essayer de faire, de plonger dans la mentalité d'un homme de Renaissance qui est extrêmement superstitieux, très convaincu à la présence de Dieu. Et s'il est convaincu de la présence de Dieu physique, il est complètement convaincu dans la présence de diabolique physique, complètement physique. Le diable, pour lui, c'est une chose très réelle. Un peu comme Dostoïevski dans le frère Karamazov. Mais quand on essaye de plonger dans cette mentalité, c'est toujours intéressant de regarder comment il voit les choses. Et c'est pas facile, et en même temps, il faut pas être trop ponctuel. Il faut entrer et sortir de cette vision. Mais quand même, le mot vision, c'est important dans deux sens. Premièrement, c'est vision subjective. Ça veut dire vision subjective d'un homme très cultivé par rapport à l'autre à l'époque médiévale. Très cultivé parce qu'il connaît Dante, il sait Dante par cœur. Et en même temps, le mot vision, c'est un genre. C'est important de comprendre pour moi, parce que quand je pense comment je peux me pardonner pour faire cette chose tellement loin de l'histoire, tellement pas biographie, je me suis rangé par l'idée que j'ai essayé de faire vision comme Dante a fait comédie divine, parce que vision, ça veut dire un genre. Genre médiéval, ça veut dire vision de quelqu'un qui écrit quelque chose. Mais Dante a appelé comédie divine visione. Ça veut dire visione et basta. Réalité, pas réalité. Non, j'ai vu comme ça. Et ça m'a donné une possibilité d'expliquer ma liberté vis-à-vis la vie de Michelangelo. Par appeler mon film Visione.
Mais en même temps, Andrei Kanchelovski, votre film est très concret dans la manière dont vous filmez les personnages. Vous utilisez, comme souvent chez vous, et depuis, c'est le cas depuis Le Bonheur d'Asia, votre second long métrage, des comédiens non professionnels. Quand vous filmez dans une carrière, ce sont vraiment des ouvriers des carrières qu'on filme. Pourquoi est-ce que vous avez toujours eu ce goût pour les comédiens non professionnels et comment est-ce que vous les dirigez? Comment est-ce que vous les filmez, Andrei Kanchelovski?
Vous savez, mon idée de ne pas tourner l'acteur professionnel est venue que j'ai senti que l'acteur, qui est bon acteur peut-être, mais l'acteur toujours s'exprime prémédité, premièrement. Et deuxièmement, l'acteur a le visage d'acteur. Comme je dis, je ne sais pas comment il faut expliquer. Quand j'ai fait Bonheur d'Asia, j'ai pensé que je ne vais pas faire un film de la vie de Kolkhoz à la manière du réalisme socialiste. Alors j'ai décidé d'aller à la Provence chercher les gens avec les visages qui ne sont pas les visages du cinéma, les visages de la vie. Il y a une grande distance, particulièrement à cette époque, les visages de cinéma soviétique et les visages de spectateurs. Et j'ai cherché parmi les spectateurs le vrai visage de la vie. Et bien sûr, ça m'a donné une grande possibilité de chercher la vérité qui vient avec la vérité de vie, le personnage ordinaire qui ne sait pas jouer, qui peut seulement exister. Mais dans ce sens, je pris l'exemple de grand Vittorio De Sica, e de film de cinema neorealista come Le ladri di bicicletti, Umberto De, e le grandi film italiani che sono utilizzati le pages d'acteurs, o Pasolini che ne ha utilizzati gli acteurs per la passion di San Matteo. Ma quand même, le visage au cinéma, c'est comme la couleur en peinture ou comme la note dans la musique. Et même Fellini toujours cherchait les visages à la foule, les visages dans les rues, parce que chaque visage vous donne déjà destin. Et c'est ça, énorme possibilité que créer un grand panorama de l'époque, sans expliquer même, parce que visage nous donne un grand hiéroglyphe, un grand symbole de période. Et quand j'ai cherché les visages pour Michel-Ange, j'ai cherché les visages de l'époque, chercher ce visage à dessin, le dessin de Michel-Ange, le dessin de Leonardo. Leonardo a beaucoup de visages. Ces visages sont divines ou infernales. C'est drôle, mais et pour moi, c'est très important chercher les images. Et j'ai trouvé les images parmi le clochard de Rome. Clochard de Rome. Extraordinaire.
C'est très émouvant, Andrei Konchalovsky, que malgré vos 55 ans de cinéma, vous reconnaissiez encore ce que vous devez à vos maîtres, aux cinéastes qui vous ont influencé. Il y en a beaucoup qui vous ont influencé au début, Fellini, Bergman, Kurosawa, dont vous avez adapté ce scénario non tourné pour faire ce film que j'adore, qui est Runaway Train, un de vos plus beaux films tournés à Hollywood. Et il est question aussi de ça dans Michel-Ange. Le peintre Raphaël, par exemple, est accusé d'être un voleur d'idées, de se servir chez ses maîtres. Comment est-ce que vous avez digéré les influences de vos maîtres, Andrei Konchalovsky, et comment est-ce que vous avez appris à vous en libérer?
Vous savez, je n'ai pas seulement été influencé, j'ai volé. je volais directement. Mais vous savez, c'est Stravinsky, grand compositeur russe, il dit « Les gens du talent peuvent approprier les génies volent. C'est drôle, mais vraiment voler. Et Matisse a dit une fois, il ne faut pas jamais se sentir honte d'accepter l'influence. Et bien sûr, tous les jeunes, toujours, essayent, tous les jeunes cultivés, toujours impressionnés ou influencés par les grands maîtres, essayer de répéter et après, essayer de faire mieux. Et même Michel-Ange a eu une grande influence à l'époque de Ghirlandaio. Et après, mais pour se libérer, c'est une chose qui demande les années de chercher la vérité. Parce que quand je dis chercher la vérité, ça veut dire s'il y a quelque chose qui est vraiment excitant pour le savant, pour les gens, seulement pour les gens de penser, ou pour l'artiste, c'est la même chose, essayer de chercher le sens de la vie. Ça veut dire qui est la vérité. Einstein a dit une fois, « Seule chose que je veux comprendre, c'est le design de Dieu. Le reste est le détail. » Mais le design de Dieu, c'est quand même un grand mystère. Et on essaye de chercher si on est les gens avec curiosité, nous sommes comme les animaux humaine très, très curieux. Si on essaye de chercher le sens de la vie, à la fin, vers le troisième acte de notre vie, on oublie les influences. Et cette libération, elle n'est pas consciente. Cette libération est quand vous, tout d'un coup, vous trouvez à l'espace sans gravitation de grande. Sans gravitation de grande qui t'est influencée, comme Kurosawa ou Fellini. Et tout d'un coup, il y a un peur où je suis, parce que je n'ai pas plus de gravitation. Et vous commencez un peu suspendu, être suspendu, voler. Et là, où il y a une curiosité de chercher aussi la possibilité de comprendre qu'est-ce que c'est l'image. Vous savez, je fais peut-être 40 ans de ma carrière, et à la fin de 40e, en 40, je me sentis que je sais tout à propos du cinéma. Comme tourner, panorama, close-up, reverse, toutes les mécaniques où j'ai presque autopilote. Et tout en coup, j'ai compris que j'ai arrêté, essayé de comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'image du cinéma. Et j'ai relu le livre fantastique du cinéma de Robert Bresson, une vraiment bible, à mon avis, c'est une bible pour cinéaste. Que la chose plus importante, de ne pas se tromper dans les choses que tu montres, mais plus important de ne pas tromper dans les choses que tu ne montres pas. Et là, on commençait une énorme odyssée de mes derrière 15 ans de mon travail au cinéma.
Ce film, Michel-Ange, Andrei Kanchalovski, est aussi un film sur le rapport de l'artiste au pouvoir, au commanditaire, au financier. Vous qui avez commencé sous Brejnev, qui avez composé avec les studios américains lors de votre passage à Hollywood dans les années 80, puis qui êtes retourné dans la Russie, brutalement converti au capitalisme après la chute de l'URSS, est-ce que vous avez puisé dans votre propre expérience du rapport au pouvoir pour raconter cette histoire ?
Oui, bien sûr, parce que le rapport de pouvoir entre artiste et pouvoir, parce que particulièrement artiste comme cinéma ou grand sculpteur, il y a toujours le pouvoir qui nous donne possibilité de tourner. Ça veut dire ou bien c'est propagande politique ou bien c'est l'argent. Et particulièrement quand je travaillais aux Unions soviétiques, j'avais beaucoup plus possibilité de s'exprimer si je ne touche pas les questions politiques. Ça veut dire que je ne touche pas le problème des partis communistes. Et après, on peut faire n'importe quoi. André Roublev et les films, parce que le système socialiste compte pas d'argent. Et après, je suis allé quand j'étais à Hollywood, j'ai compris que je dois essayer de vendre mon talent et j'avais aucun talent, aucune connaissance comment il faut se vendre. Et j'ai compris que il y a l'autre sens de censure, la censure économique, difficile à comprendre. Pendant 3 ans, j'ai pas compris comment il faut faire. Aujourd'hui, je pense pas que ce que beaucoup de jeunes crèvent, quand je parle, ils veulent avoir la liberté de s'exprimer. Vous savez, je suis devenu peut-être un peu plus, si vous voulez, humble, dans le sens que, à vrai dire, qu'est-ce que c'est artiste ? Artiste, c'est un serveur. C'est comme un clown dans le cirque, un grand clown, peut-être, mais clown, comme Fellini se considérait. Et dans ce sens, il y a une scène à 8h30, si vous vous souvenez, quand Marcello Mastroianni, qui joue metteur en scène, va vers le producteur et se met aux genoux pour demander un peu d'argent pour finir son film. C'est drôle si nous sommes si nous sommes assez malins de comprendre que nous sommes seulement le clown dans le sens philosophique, c'est beaucoup plus facile de travailler. Et grâce à Dieu, moi, j'ai trouvé mon Medici. Parce que si je n'avais pas mon Medici comme Alisher Osmanov, qui est un homme très riche, industrialiste, qui finance mes derniers films, et quand je lui dis, écoutez, monsieur Osmanov, vous n'avez pas aucun retour de finances. Aucun. Il m'a regardé. C'est pas vrai. J'ai dit, mes films sont toujours pour l'argent. C'est une phrase que j'ai dit à tous les gens, derniers 15 ans, qui voulaient financer mes films. Il a dit, ok, diable, va. Et c'est pour moi, et je me sentis comme Michel-Ange. Mais vous savez les différences entre Michel-Ange et artiste moderne. À l'époque de Michel-Ange, les gens qui finançaient les œuvres de Michel-Ange n'ont jamais fait investissement. C'est pas investissement. Ils ont financé pour avoir une œuvre sans jamais penser combien ça va coûter l'année prochaine. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs, mais il n'y a pas de vrai mécénat.
Только бы паника не поднялась.
В городе слухи поползли о повышении цен на продовольствие.
На весь мир объявили, что будем скоро жить при коммунизме, а сами цены поднимают.
На заводе разговоры пошли, что жить не на что. Зарплату в треть урезали.
Ты советский человек?
Я, да.
Вот именно. В Советском Союзе голод.
Это что?
Grâce à ce mécénat, Andrei Konchalovsky, ça sera ma dernière question. Vous avez pu tourner à nouveau un film qui a été présenté à la dernière Mostra de Venise, « Chers camarades », film qui revient sur un moment de l'histoire de l'URSS en 1962, la répression sanglante d'un mouvement ouvrier qu'on a découvert que 30 ans plus tard, après la chute du communisme. C'est un film en hommage à la génération de vos parents, ce film.
Oui. L'histoire russe et l'histoire soviétique et interprétation, la chose plus par interprétation de l'histoire à la manière russe, c'est toujours noir et blanc. C'est très manichéen. La mentalité russe n'a pas de gris, n'a pas de côté axiologique de neutre. Et c'est toujours l'extrême. Par exemple, maintenant, tous les communistes de la génération des communistes sont ou bien les cons, ou bien les tueurs, ou bien les idiots. Et c'est pour moi assez pénible de ne pas essayer d'expliquer les gens, les jeunes, que la génération de Homo Sovieticus, c'est pas du tout péjoratif, Homo Sovieticus. Un peu plus péjoratif, Homo Sovieticus, c'est bien quelque chose de limité. Comme nous ne sommes pas limités aujourd'hui, quelle illusion. Mais cette génération est une génération, la plupart, les gens assez innocents. Bien sûr, il y avait toujours le problème humain, mais innocents dans le sens qu'ils sont vraiment créés, essayés de créer le système avec l'idée de créer le communisme. Ils sont assez purs. Particulièrement les gens simples, les soldats qui attaquaient le front avec le nom de Staline. Et ces gens sont très purs, naïfs et tragiques. Mais tragédie vient de pureté. Tragédie vient d'innocence qui tout en coup trouve que la réalité n'est pas du tout ce qu'on croyait. C'est le moment de grandir, et c'est pénible. C'est pourquoi, dans ce sens, je voulais faire un film sur les gens très purs, communistes purs, comme la plupart des communistes français à l'époque. Grande génération d'idéalisme. Et je ne vais pas du tout dire, regardez ces gens, ils sont déjà dans le passé. Je trouve que l'idéalisme sera avec nous et se revient. Se revient. Se doit, on doit passer scepticisme. Scepticisme de l'existence vers l'idéalisme de l'avenir. Au moins, je préfère avoir cette illusion.
Merci beaucoup, Andrei Konchalovsky. On espère voir aussi bientôt ce cher camarade.
Merci, merci à vous.
Michel-Ange d'Andrei Konchalovsky est sorti en salle mercredi dernier. En attendant donc le prochain, cher camarade, on l'attend avec impatience. Et pour en savoir plus sur le cinéaste, on vous recommande bien sûr donc la lecture de ses passionnants entretiens avec Michel Simon. Andrei Konchalovsky, ni dissident, ni partisan, ni courtisan. C'est une coédition Institut Lumière et Actes Sud. Merci infiniment à Michel Burstein pour la ténacité sans faille avec laquelle il a lutté pour nous obtenir cet entretien. Et puisqu'on rend hommage aux maillons indispensables de la chaîne du cinéma que sont les attachés de presse, nous dédions cette émission à Céline Petit qui défendit notamment le travail de Nicolas Winding Refn, Bong Joon-ho, Park Chan-wook, Briante Mendoza et autres Fatih Akin et dont on a appris il y a une semaine la disparition prématurée à 45 ans. Nous lui devons de belles rencontres, nous l'en remercions et adressons une pensée à ses proches et à ses collègues. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, il est temps d'ouvrir le journal du cinéma.
Don't worry, that guy's got to see us. Don't worry, that guy's got to see us. These were the confident last words of the brilliant young Hollywood star James Dean as he piloted his Porsche 550 Spyder race car toward a date with death along a lonely stretch of California, two-lane blacktop, Route 466. Don't worry, that guy's gotta see us.
You get the truck, come back with the money.
That's $2.5 million per head, if you come back alive.
Quand le temps te le rend d'un
coup.
Tais-toi, tais-toi, t'as pas de raison d'avoir peur. Faut pas que tes parents apprennent que j'existe.
C'est mes grands-parents, j'ai perdu mes parents.
Ah bon? Tu les as mis où?
Ah, t'es rigolo, perdu mes parents, c'est une expression, ça veut dire qu'ils sont morts.
Ça fait 300 ans que j'ai 10 ans. 300 ans que je m'ennuie. J'en ai marre d'être toujours coincée ici.
Tu peux pas dire ça.
Moi je m'en fiche, je quitte cette maison.
Il a perdu la boule.
Oh my gosh, do you look beautiful. Cliff, how's your mom's hip?
Good, thanks.
Good. He thinks you're my girlfriend.
Grace.
Been busy?
Yeah. Dean's traveling with clients all the time, and I'm just the buzzkill waiting to schedule things. Just, I'm so stuck.
Look at all of this.
I never seen so many people together.
Hello. I won't hurt you. Hello.
It's been a long time since someone offered me his hand. After the tsunami, there was a rumor that plants could grow here again.
What's this tsunami?
Do you understand what this is?
Well, after so much loneliness, it's good to be together.
Now you have to build a real camera. And shoot them. Then they remain forever.
Sur vos écrans cette semaine, à voir en salle avant 21h et sur vos petits écrans, une fois rentré chez vous, si vous êtes soumis au couvre-feu, un fétichiste passionné d'accidents de voiture célèbres qui entraîne un couple bien comme il faut dans la réinvention de leur sexualité par la fusion de la chair et de la machine, c'est Crash, le chef-d'œuvre de David Cronenberg, dernier grand scandale du Festival de Cannes, dont il repartit cependant avec le Grand Prix du jury en 1996. Le film en version restaurée est édité par Carlotta en un somptueux coffret ultra collector avec comme toujours un livre d'entretien et d'analyse et foultitude de bonus. Une Corée du Sud coupée du monde par une pandémie qui a atteint la totalité ou presque de sa population, c'est le retour des zombies convulsifs et véloces de Yang Sang-ho, 4 ans après le dernier train pour Busan. Un film effréné et volontiers mélodramatique dont on se réjouit tout blockbuster qu'il soit qu'une autre pandémie ne l'ait finalement pas empêché de sortir malgré une valse hésitation la semaine dernière qui a causé quelques nuits blanches chez les exploitants de salles de cinéma. Fantastique et sentiment encore avec Petit Vampire, l'adaptation en dessin animé par le prolixe bédéaste, romancier, cinéaste et j'en oublie encore sans doute Johan Sfar. Adaptation donc de sa bande dessinée à succès. Il y a encore le retour, mais sur la plateforme Apple TV, de Sofia Coppola qui avec On the Rocks remet sur le tapis son exploration des rapports des filles avec leur père. Sofia Coppola, on aime ou on aime pas, mais rien que pour Bill Murray en paternel fantasque hableur et désespérément séducteur, ça vaut le coup. Et puis enfin, c'est mercredi encore qu'est sorti en salle la fable post-apocalyptique et visionnaire de Jonathan Nociter, Last Words, une déclaration d'amour au cinéma et à sa capacité à faire communauté d'individus désespérés dont l'auteur, devenu agriculteur, était venu nous parler avec passion. Dans Plan Large, c'était début septembre au festival de Deauville. Aller au cinéma, donc voir des films ensemble même masqué, c'est plus indispensable que jamais en ce moment. Tiens, vous pouvez même aller rire de notre société telle qu'elle est devenue, entre travail qui tue et violence policière qui énuclée, dans le nouveau film d'Albert Dupontel, Adieu les cons, un film dédié à la mémoire de Terry Jones, où un autre Monty Python et autre Terry Gilliam, fait un caméo en enthousiaste vendeur d'armes sur Internet, où des personnages s'appellent Kurtzman, Tuttle et Lint, autant dire qui flotte un fort parfum de Brazil, la dystopie visionnaire de Terry Gilliam en 1985. Albert Dupontel.
Alors l'idée, je ne peux pas vous dire que je suis parti de Brazil en disant on va refaire un Brazil, ça serait faux. Mais le décorum, quand il s'est mis en place, les appels du pied de ce chef-d'œuvre étaient évidents. Donc effectivement, Kurtzman, Dr. Lind, M. Tuttle sont très présents, avec l'accord du grand Terry, qui a lu le scénario, qui m'a dit ton histoire est aussi improbable que la réalité, donc je viendrai faire un petit coucou. Et vous avez raison, Brazil, que j'ai vu il y a 35 ans, j'étais tout jeune, et a été un choc fondamental en ce qui me concerne. C'est un film fondateur. J'ai vu une vision crépusculaire et pessimiste, mais racontée avec tellement de poésie, d'inventivité, de rythme, d'énergie et de chatoyance que je remercierai toujours Terry de m'avoir fait aborder les affres de l'avenir avec autant de délicatesse.
Comment est-ce que vous choisissez, vous, les noms de vos personnages? Je pense qu'il y a toujours quelque chose derrière. Un personnage qui s'appelle Sustrapé, c'est une manière déjà de dire des choses sur elle.
Alors, Sustrapé, pour moi, voilà, elle devait être l'incarnation parfaite d'une France du terroir que j'adore et d'où je viens. Donc, Suze est vraisemblablement le diminutif d'une Suzanne. Et quant à Trapé, c'est un nom que j'ai dû entendre, encore une fois, dans cette France dont je viens et que j'aime beaucoup. Quant à Monsieur Blin, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas la signification française de blind. C'était quand je l'ai écrit, ce personnage-là, entre autres, j'ai vu le beau cerf de Chabrol, et il y a un acteur qui s'appelle Blin, voilà, Gérard Blin. Donc je pense que c'est le beau cerf, Serge Blin, j'ai fait une concomitance entre ces personnages-là. Pour le reste, effectivement, je suis basé sur Brazil, M. Kurtzman, le Dr. Lint, M. Tuttle, etc., etc.
Gérard Blin qui était réalisateur, lui aussi. Comment vous faites, vous, pour allier les deux? Est-ce que quand vous vous mettez en scène, vous oubliez l'un pour jouer l'autre? Ou est-ce que, parce que c'est parfois le sentiment que j'ai, c'est que vous mettez en scène à l'intérieur même du plan, que vous êtes toujours cinéaste, même quand vous êtes devant la caméra?
Il y a un fond de mégalomanie chez moi qui fait que j'aborde ça avec beaucoup d'enthousiasme. Après, j'ai l'habitude, je me fais encadrer beaucoup. Il y a, au combo, il y a la productrice qui est toujours là, qui donne un œil souvent très pertinent sur ce que je suis en train de faire. Il y a Philippe Huchon, alias Monsieur Kurtzman, qui est souvent là en tant que guide. Et pour ne rien vous cacher, quand c'est raté, je vois son montage, ben, je recommence.
Ce qui permet sans doute que vous jouiez à l'intérieur de vos films, c'est que vos films sont extrêmement préparés. Quand on vient vous voir ici, on a vu par exemple vos storyboards qui sont accessibles aux journalistes en attente d'interview. Toute cette préparation, ça vous permet justement d'avoir plus de liberté une fois que vous êtes en train de jouer ?
Absolument, donc je prépare ça minutieusement. Je vous cache pas que ça m'amuse beaucoup, hein, les dessins, les bords, le découpage. J'ai toute une équipe technique avec qui je m'entends très bien, qui s'amuse à contredire positivement mon découpage en amont du tournage. Par contre, après, il y a les acteurs qui arrivent. Les acteurs, c'est la chose la plus belle et la plus irrationnelle d'un plateau. Donc, il faut répéter avec eux, simplement pour dire, voilà ce que je cherche. Et le jour J, par contre, la caméra a tendance à être plutôt discrète et à laisser faire les acteurs. Et souvent, en répétition, je commence à voir ce qu'ils font, ce qu'on fait d'ailleurs, parce que je participe aussi à la danse, et à placer la caméra par rapport à ça. Donc voilà, il y a vraiment deux pôles de travail. Quand les acteurs arrivent, c'est quasiment un documentaire animalier. Il ne faut pas effaroucher l'animal. Et puis, quand ils ne sont pas là, c'est de la mise en scène pure. On s'amuse beaucoup avec l'équipe technique.
Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile.
À ce point ?
Oui, ça c'est normal. Hein. Donner ses données, reprendre ses volets.
Je m'excuse, mais je trouve ça trop injuste.
Quoi, on peut rien faire alors ?
Ça peut prendre du temps.
Mais c'est-à-dire, j'ai un souci de santé.
Si vous êtes pressé, on s'en sort plus.
Excusez ma grossièreté. Adieu les cons.
Adieu les cons d'Albert Dupontel est en salle, qui peut l'ignorer, depuis mercredi. Et pour rester encore un peu dans l'esprit du Michel-Ange d'Andrei Konchalovsky, qui citait dans l'entretien qu'il vient de nous accorder l'évangile selon saint Matthieu, les éditions Nous, N-O-U-S, viennent de publier La Rage, scénario intégral en forme de poème filmique en prose et en vers de La Rabbia, le film que Pier Paolo Pasolini avait réalisé en 1963, le tout dans une nouvelle traduction de Patrizia Hatzey et Benoît Casas. Et pour rester en parfum d'Italie, la ville de Villerupt, berceau de l'immigration transalpine en France, maintient envers et contre tout la 43e édition de son excellent festival du film italien. Cette année, hommage en sa présence à la cinéaste Cristina Comencini et rétrospective en 10 films consacrés à celui qui a le mieux incarné les travers du mal italien dans les comédies du même nom, Alberto Sordi, l'Albertone, qui aurait eu 100 ans cette année. Après la fiction comme documentaire animalier sur les acteurs, selon Albert Dupont, tel du documentaire pur et dur, même si certains de ses héros semblent sortis tout droit du cinéma classique hollywoodien.
Our job is to represent and support the people of Boston. That's our job. Whether it's for through somebody or directly for somebody, that's what our job is. And when you're a public employee, you have responsibility for that. And I think that you have You in this room, everyone in this room is more motivated than the average person in City Hall in a lot of different ways. And take that motivation and take that desire and keep that moving forward because that's who we have to be.
L'homme qu'on vient d'entendre motiver ses troupes et leur donner la définition de leur travail, de leur job, c'est Marty Walsh, le maire de Boston depuis 2013. Il est le héros sorti presque tout droit d'un John Ford ou d'un Frank Capra, du nouveau film du vétéran et grand portraitiste du mode de vie américain par le prisme de ses institutions, Frédéric Wiseman. Le film d'un peu plus de 4h30, c'est City Hall, portrait au long cours donc de la mairie de Boston comme contre-modèle de l'Amérique de Donald Trump, une défense et illustration de ce que peut être vraiment, selon la terminologie de Lincoln, un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple et qui, comme beaucoup des films tardifs de son auteur et principalement ceux qui s'attachent à un territoire comme récemment In Jackson Heights ou Monrovia, Indiana, le précédent, récapitule bon nombre des thèmes et figures de l'ample filmographie de Frédéric Wiseman initiée en 1967 avec Titicut Follies, Charlotte Garçon.
Oui, on parlait de monumental dans cette émission. Effectivement, Titicut Follies est d'ailleurs ressorti en salle il y a 3 ans. Et si vous l'avez vu, on peut quand même remarquer l'évolution de Wiseman. C'est-à-dire que ses premiers films étaient un peu des films chocs parce qu'ils étaient courts et que donc le montage très très cut faisait qu'on avait l'impression, quand il filmait des institutions, donc une prison psychiatrique dans Titicut Follies, mais aussi finalement un lycée dans High School ou même une patrouille de police dans Law and Order, qu'il critiquait forcément l'institution qu'il explorait. Et donc, il y avait un côté dénonciateur, malgré tout, dans ses films. au cours de, de sa longue carrière, c'est vrai que les films se sont allongés en métrage, mais justement pour s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus subtil qui serait une mosaïque très très complexe de la façon dont les hommes vivent en société, d'où des durées effectivement parfois monumentales, mais des sujets qui le sont beaucoup moins. Hein. Vous parliez de Monrovia, Indiana, son précédent film. On était dans une petite ville et on voyait comment cette petite ville vivait dans différents lieux. On n'était plus dans un seul bâtiment, comme on a l'idée de cantonner Wiseman à cette facilité, en quelque sorte, du lieu. Et auparavant, donc Jackson Heights, où c'était vraiment l'échelle d'un quartier. Alors l'échelle, vraiment, c'est quelque chose de très important dans le choix de Wiseman à Boston. Bien sûr, d'abord, Boston, c'est sa ville natale. Il n'insiste pas là-dessus, mais c'est quand même, je pense, très important. Et puis, le choix d'une mairie. Une mairie, ça fonctionne à deux niveaux. Donc, une mairie, c'est un titre générique. On a l'impression d'être dans un imagier. Voilà, la mairie, on a eu avant la bibliothèque, le musée, etc. Mais c'est quand même pas n'importe quelle mairie, puisque, vous l'avez dit, Marty Walsh, le maire, a vraiment des principes de solidarité sociale, des principes de diversité qui sont y compris à l'intérieur de ses équipes. Et ça, il faut qu'on le voit dans le film. Donc, visuellement, on voit que c'est une équipe très, très variée ethniquement. Alors, pourquoi ce film est-il si long? Je pense que déjà les auditeurs, spectateurs peuvent se poser la question. Au passage, combien de gens nous parlent d'avoir bingé des séries pendant des heures? Donc voilà, la longueur, c'est aussi quand même très, très subjectif. Hein. Qu'on vienne pas me dire que c'est trop long quand on voit des séries entières, des saisons entières sur les plateformes. Il est long parce que Frédéric Wiseman fait le son sur ses films et que donc, il est vrai que ces films sont polarisés par des situations de parole. Alors lui, il fait le son, c'est-à-dire qu'il donne des instructions codées à son caméraman pour savoir aussi est-ce qu'il faut qu'il soit prêt, loin, qui doit-il filmer. Mais c'est très important qu'il ait un peu les grandes oreilles parce que ces situations de parole sont évidemment au cœur de l'activité d'un politicien, bien sûr. Alors d'une part, on voit que le maire de Boston est une sorte de rhétoricien qui, l'air de rien, sait très bien placer des petits biographèmes, des petits aspects de sa propre vie dans ses discours. Mais ça, ce serait un peu banal. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une satire de ce que c'est qu'être politicien et de répéter un peu les mêmes discours un peu partout dans différents lieux de la ville. Bon, ça, ce serait un documentaire lambda, disons, sur un rhéteur assez doué qui serait Marty Walsh. En réalité, le film est beaucoup plus ambitieux puisqu'il a la visée de montrer que la parole c'est du temps, que la parole s'échange, mais que la parole c'est aussi de l'écoute. Et que c'est à ce prix seulement que cette parole n'est pas encore tout à fait dévaluée. Alors là, c'est vraiment la bonne nouvelle du film, hein, que la politique, c'est peut-être encore le lieu où parler permet encore de faire quelque chose. Parler, c'est faire avancer les choses, dans le meilleur des cas. C'est faire le lien entre l'individuel et le collectif. C'est faire le lien entre l'administratif et le technique. C'est vraiment quelque chose de possible, y compris par la parole. Et ça, moi, je trouve que c'est ce qui nous fait reprendre et espoir dans la politique. Pourquoi c'est encore possible? Parce que quand on est investi du pouvoir, eh bien, on a encore un usage qu'on appelle en linguistique performatif de la parole. C'est-à-dire qu'un maire ou un substitut de maire peut dire « je vous marie » et ça y est, vous êtes marié. Donc, qu'en faire de ce pouvoir? On peut évidemment en abuser. City Hall nous montre quelqu'un qui essaye de l'utiliser pour véritablement représenter des citoyens. Or, représenter des gens, c'est exactement aussi la tâche du cinéaste. Et c'est là où Wiseman trouve absolument son sujet et trouve le déclic de l'articulation entre ce qu'il fait lui, cinéaste, et ce que fait ce politicien. C'est quand même improbable. Eh bien, c'est que les mêmes problèmes, disons, de mise en scène se posent à lui, c'est-à-dire qu'il doit sans cesse coordonner l'éparpillement, l'autre et lui-même, voilà, les idées et les actes. Et c'est exactement des problèmes de mise en scène qui se posent à lui. Alors, on voit ça notamment dans une scène sur le cannabis. Mais oui, ce cinéaste de 90 ans consacre une vingtaine de minutes à l'ouverture d'un commerce de cannabis où on voit au cours d'une réunion politique que des gens, et notamment une femme voilée, mais d'autres gens, prennent la parole et tout à coup expriment une possibilité de scepticisme quant à l'organisation même de la réunion citoyenne à laquelle, de la consultation citoyenne à laquelle ils sont conviés. Donc c'est extrêmement difficile de faire percevoir en quelques minutes comment la progression de la parole fait quasiment naître une conscience politique. Dernière chose de mise en scène véritablement et de montage qu'arrive à faire passer City Hall, c'est un véritable défi au documentaire direct. Je rappelle que Wiseman met un point d'honneur à ne faire aucun commentaire, bien sûr en voix off, aucun entretien dans ses documentaires, aucun carton. C'est comment on représente l'historique, le temps, alors qu'on filme au présent. Il trouve des métaphores que je ne vous dévoilerai pas toutes puisque c'est aussi la saveur de ces documentaires. Il y en a notamment un dans les archives municipales. Un employé explique à des visiteurs qu'on a retrouvé un très très vieux fossile de coquillage qui vient de l'ère glaciaire quand Boston avait été inondé puis désinondé. Et je pense qu'au fond, ce tout petit objet, Wiseman s'en sert pour nous montrer qu'il est possible de transmettre une profondeur historique à l'intérieur même de l'expérience de temps que nous avons spectateurs. Donc voilà, c'est une sorte de plaidoyer pour la patience de spectateurs et qui je pense nous restitue une forme de temps qu'on ne trouve pas ailleurs au cinéma aujourd'hui.
Oh, say, can you see? By the dawn's early light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars. We watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare,
the guns
bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say.
Merci et bravo Charlotte Garçon. City Hall de Frédéric Wiseman est en salle depuis mercredi et c'est un film soutenu par France Culture et qui fait la couverture des cahiers du cinéma comme de positif. C'est assez rare pour le remarquer. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Claire Levasseur. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Marie Placé. La semaine prochaine, l'hymne américain qu'on vient d'entendre risque de résonner encore puisque Plan large se penchera à la veille des élections présidentielles états-uniennes sur la figure d'un héros de la classe ouvrière, Sylvester Stallone. Stallone président, point d'interrogation. Ce sera avec David Da Silva et Quentin Victory Lédier. D'ici là, j'aurai retrouvé avec plaisir les adeptes parisiens de nos séances France Culture pour l'avant-première mardi de Garçon Chiffon, le premier film du comédien Nicolas Maury en sa présence. Ce sera au Majestic Bastille exceptionnellement à 18h pour que chacun soit bien rentré chez soi avant extinction des feux. Pour l'instant, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, toute une vie présentée par Christine Bernard.